Les ateliers de Alala. Les ateliers de Lalala.
Les ateliers de Lalala.
Les ateliers Lalala.
Les ateliers du la du Lalala.
Les ateliers d'Apralalala.
Les ateliers d'Apralala.
Les ateliers du Pralala.
Les ateliers d'Aprala.
Lala.
Voici la cour du lion écrit par Jean de La Fontaine.
Sa Majesté Lionne un jour voulut connaître de quelle nation le ciel l'avait fait naître.
Il manda donc par député ses vassaux de toute nature, envoyant de tous les côtés une circulaire écriture avec son sceau.
L'écrit portait qu'un mois durant, le roi tiendrait. Cour plénière dans l'ouverture devait être un grand festin, suivi des tours de fagotin.
Par ce trait de magnificence, le prince à ses sujets étalait sa puissance. En son Louvre, il les invita.
Quel Louvre ! Un vrai charnier, dont l'odorat se porta d'abord au nez des gens.
L'ours boucha sa narine. Il se fut bien passé de faire cette mine.
Sa grimace déplut, le monarque irrité l'envoya chez Pluton faire le dégoûté.
Le singe approuva fort cette sévérité et flatteur excessif, il loua la colère et la griffe du prince et l'antre et cette odeur. Il n'était ambre, il n'était fleur, qui ne fut tel au prix.
Sa sotte flatterie eut un mauvais succès et fut encore punie. Ce monseigneur du lion-là fut parent de Caligula.
Or ça, lui dit Sire, que sens-tu ? Parle sans déguiser.
L'autre aussitôt de s'excuser.
Alléguant un grand rhume, il ne pouvait que dire sans odorat.
Bref, ils s'en tirent.
Ceci vous sert d'enseignement.
Ne soyez à la cour si vous voulez y plaire, ni fade adultère, ni parleur trop sincère.
Et tâchez quelquefois de répondre en normand. C'était La Cour du Lion de Jean de La Fontaine, présenté par
Valentin,
Théo,
Mathéo
et Oscar.
Voici l'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit de Jean de La Fontaine.
Qui ne court après la fortune ? Je voudrais être en lieu d'où je puis aisément contempler la foule importune de ceux qui cherchent vainement cette fille du sort de royaume en royaume, fidèle courtisan d'un volage fantôme. Quand ils sont près du bon moment, l'inconstance aussitôt à leur désir échappe. Pauvres gens, je les plains, car on a pour les fous plus de pitié que de courroux.
Cet homme, disent-ils, était planteur de choux, et le voilà devenu pape. Ne le valons-nous pas ? Vous valez 100 fois mieux. Mais que vous sert votre mérite ? La fortune a-t-elle des yeux ? Et puis, la papauté vaut-elle ce qu'on quitte ? Le repos, trésor si précieux, qu'on en faisait jadis le partage des dieux.
Rarement, la fortune à ses hôtes le laisse. Ne cherchez point cette déesse, elle vous cherchera, son sexe en use ainsi. Certains couples d'amis en abord établis possédaient quelques biens, l'un soupirait sans cesse pour la fortune. Il dit à l'autre un jour.
Si nous quittions notre séjour, vous savez que nul n'est prophète en son pays. Cherchons notre aventure ailleurs. Cherchez, dit l'autre ami, pour moi je ne souhaite ni climat ni destin meilleur. Contentez-vous, suivez votre humeur inquiète. Vous reviendrez bientôt, je fais vœu cependant de dormir en vous attendant.
L'ambitieux, ou si l'on veut l'avare, s'en va par voie et par chemin. Il arriva le lendemain en un lieu que devait la déesse bizarre. Fréquentée sur tout autre, et ce lieu, c'est la cour. Là donc, pour quelque temps, il fixe son séjour. Se trouvant au coucher, au lever à 16 heures, que l'on sait être les meilleurs. Bref, se trouvant à tout et n'arrivant à rien.
Qu'est-ce ceci ? Se dit-il. Cherchons ailleurs du bien. La fortune pourtant habite ses demeures. Je la vois tous les jours entrer chez celui-ci, chez celui-là. Devient qu'aussi, je ne puis héberger cette capricieuse. On me l'avait bien dit, que des gens de ce lieu-ci, l'on n'aime pas toujours l'humeur ambitieuse.
Adieu, messieurs de cour, adieu. Suivez jusqu'au bout une ombre qui vous flatte. La fortune a, dit-on, des temples à Surate. Allons là, ce fut un de dire et s'embarquer. Âme de bronze humaine, celui-là fut sans doute armé de diamants qui tenta cette route, et le premier osa l'abîmer, défier.
Celui-ci, pendant son voyage, tourna les yeux vers son village, plus d'une fois essuyant les dangers, des pirates, des vents, du calme et des rochers. Ministre de la mort, avec beaucoup de peine, on s'en va la chercher en des rives lointaines, la trouvant assez tôt, sans quitter la maison.
L'homme arrive au Mogol. On lui dit qu'au Japon, la fortune pour l'or distribuait ses grâces. Il y court, les mers étaient lasses de le porter, et tout le fruit qu'il tira de ses longs voyages.
Ce fut cette leçon que donnent les sauvages, demeure en ton pays par la nature instruit. Le Japon ne fut pas plus heureux à cet homme que le Mongol l'avait été, ce qui lui fit conclure en somme qu'il avait à grand tort son village quitté. Il renonce aux courses ingrates, revient en son pays, voit de loin ses pénates, pleure de joie et dit « Heureux qui vit chez soi, de régler ses désirs faisant tout son emploi. »
Il ne sait que parouir dire ce que c'est que la cour, la mer et ton empire. Fortune qui nous fait passer devant les yeux, les dignités, les biens que jusqu'au bout du monde. On suit sans que les faits aux promesses répondent. Désormais, je ne bouge et ferai 100 fois mieux.
En raisonnant de cette sorte, et contre la fortune ayant pris ce conseil, il la trouve assise à sa porte, de son ami plongé dans un profond sommeil. Cette fable a été interprétée par
Louane,
Joanne, Charlotte, Sarah,
Nathan
et par moi-même Raphaël. Salut,
salut.
Voici Le Héron de Jean de La Fontaine. Un jour, sur ses longs pieds, allait, je ne sais où, le héron au long bec, emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Mahacomère la carpe y faisait mille tours, avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tous approchaient du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit.
Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace.
« Moi, des tanches !»
dit-il.
« Moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on ?»
La tanche rebutée, il trouva du goujon.
« Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, au Dieu ne plaise. »
Il l'ouvrit pour bien moins, tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon.
« Ne soyons pas si difficiles, les plus accommodants ce sont les plus habiles. » On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris, ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humain, un autre compte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons.
Ce texte de Jean de La Fontaine vous a été lu et interprété par Martin,
Lisa,
Yuna et Anatsa.
A plus !
A plus, à plus.
Voici une fable de Jean de La Fontaine qui s'intitule « Le rat qui s'est retiré du monde ».
Les Levantins ont leur légende, disent qu'un certain rat, las des soins d'ici-bas, dans un fromage de Hollande, se retira loin du tracas. La solitude était profonde, s'étendant partout à la ronde.
Notre ermite nouveau, subsisté là-dedans, il fit tant de pieds et de dents qu'en peu de jours, il eut au fond de l'ermitage le vivre et le couvert. Que faut-il davantage ? Il devint gros et gras. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Un jour, au dévot personnage,
des députés du peuple rat s'en vinrent demander quelque aumône légère. Ils allaient en terre étrangère chercher quelque secours contre le peuple chat. Ratopolis était bloqué. On les avait contraints de partir sans argent, attendu l'état indigent de la République attaquée. Ils demandaient fort peu, certains que les secours seraient pris dans 4 ou 5 jours.
« Mes amis, dit le solitaire, les choses d'ici-bas ne me regardent plus. En quoi peut un pauvre reclus vous assister ? Que peut-il faire que de prier le ciel qui vous aide en ceci ? J'espère qu'il aura de vous quelques soucis. »
Ayant parlé de cette sorte, le nouveau saint ferma sa porte. « Que désignais-je, à votre avis, par ce rat si peu secourable ? Un moine ? Non, mais un dervis. Je suppose qu'un moine est toujours charitable. » Cette fable vous a été lue par Jade, Lucas, Anatole et Alan, élèves à la cité scolaire Brocéliande en classe de 6e B et seconde 3.
Au revoir!
Voici Le curé et le mort de Jean de La Fontaine.
Un mort s'en allait tristement, s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement, enterrer ce mort au plus vite. Notre défunt était en carrosse porté, bien et dûment empaqueté. Et vêtu d'une robe, hélas, qu'on nomme bière, robe d'hiver, robe d'été, que les morts ne dépouillent guère.
Le pasteur était à côté et récitait à l'ordinaire maintes dévotes oraisons et des psaumes et des leçons et des versets et des réponses.
Monsieur le mort, laissez-nous faire, on vous en donnera de toutes les façons, il ne s'agit que du salaire.
Mais Sire Jean Chouard couvait des yeux son mort comme si l'on eût dû lui ravir ce trésor et des regards semblaient lui dire
Monsieur le mort, j'aurai de vous tant en argent et tant en cire et tant en autre menu coup.
Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette, du meilleur vin des environs. Certaines nièces assez propettes et sa chambrière paquette devaient avoir des cotillons.
Sur cette agréable pensée, un heure survint. Adieu le char, voilà messire Jean Chouard, qui du choc de son mort à la tête cassée, le paroisson en plomb entraîne son pasteur. Notre curé suit son seigneur, tous deux s'en vont de compagnie, proprement toute notre vie, est le curé Chouard qui sur son mort comptait et la fable du pot au lait.
Ce texte de Jean de La Fontaine a été lu par Enora,
Lilian,
Ewen
et Yanis.
Salut, salut.
Les ateliers de Alala. Les ateliers de Lalala.
Les ateliers de Lalala.
Les ateliers Lalala.
Les ateliers du la du Pralala.
Les ateliers d'Apralala.
Les ateliers d'Apralala.
Les ateliers du Pralala.
Les ateliers d'Aprala.
Lala.